très complet, je trouve aussi, sur un sujet difficile, mais néanmoins, c'était vraiment très intéressant. Y a-t-il des questions ? Place aux questions.
Oui, alors, je crois que, certainement que je ne suis pas aussi intelligent que tout le monde ici, mais, ou alors j'ai mal compris vos propos, mais d'après vos propos, j'ai eu l'impression que dans ces pays musulmans, sans exception, tout va bien, la vie est belle. Or, ici, on prie régulièrement pour nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés. Et ça n'a pas l'air de venir de votre bouche, oui, effectivement, etc. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que dans Téhéran même et les environs, il y a environ 5000 personnes qui viennent d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Et des choses comme ça, ça passe quelque part inaperçu d'après ce que j'ai entendu. Mais comme je vous dis, je suis certainement la seule à avoir compris votre propos de cette manière.
Écoutez, je ne sais pas si vous êtes la seule, mais j'espère que j'ai quand même parlé des martyrs, j'ai parlé de la situation iranienne, des pasteurs en prison, j'ai parlé de la loi du blasphème. J'ai parlé de la loi du blasphème au Pakistan. Il me semble avoir évoqué la fragilité des communautés et que effectivement un certain nombre sont en réel danger. Ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est pas la seule minorité. Bon, s'il y avait un élément que je pourrais résumer, c'est que c'est des pays qui ne respectent pas les droits humains, qui ont un apprentissage à faire à cet égard-là et qui visent toute forme de minorité. Et il me semblait que lorsqu'on parle d'amour chrétien, et notre motivation, c'est d'être solidaire de tous ceux et de toutes celles qui voient leurs droits fondamentaux de liberté religieuse bafoués. Si je n'ai pas été assez clair, je partage votre souci pour toutes ces minorités. J'ai parlé des Irakiens, dit qu'il y avait pratiquement plus de chrétiens à Bagdad, qu'ils étaient dans une situation fragile. Non, si je prends les pays évoqués, je crois quand même avoir mentionné que la chose est... Alors, peut-être qu'il faut dire un mot à ce sujet. C'est vrai que ces rébellions se sont faites en réclamant plus de démocratie, plus de droits humains, plus d'égalité. En même temps, quand on dit la démocratie et que tout d'un coup on soulève, j'allais dire, le couvercle de la marmite, il est évident qu'on va avoir toutes sortes de manifestations et on serait malvenu si le choix majoritaire est celui des frères musulmans de voir un président se trouver être frère musulman en Égypte. Je ne minimise pas le défi que ça représente, pas seulement pour la minorité chrétienne, mais pour l'ensemble de l'Égypte. Et en même temps, est-ce que vraiment on peut être surpris ? Je veux dire, si la loi de la majorité vaut chez nous, je pense qu'elle doit valoir chez les autres. Vous parlez de la Tunisie. Il y a un formidable enjeu en Tunisie. Alors peut-être vous pensez que les choses sont déjà jouées. Moi, je ne crois pas. Moi, j'ai une amie tunisienne qui se bat pour défendre le droit des femmes, elle enseigne à l'université. Donc il y a de vrais enjeux difficiles. Et en même temps, qui avait une légitimité pour succéder et n'avoir pas été mouillé avec le régime de Ben Ali ? Eh bien, voilà, c'est du côté de Ennahda. C'est pas surprenant puisqu'ils étaient directement victimes et que Ranouchi était en exil en Grande-Bretagne. Donc il faut. Mon effort était un peu de resituer dans le contexte général, et j'espère, alors je bats ma culpe, de ne pas avoir minimisé les difficultés, mais aussi les répressions dont un certain nombre de minorités, notamment chrétiennes, sont victimes aujourd'hui au Proche-Orient. Donc à cet égard, je corrige ce que j'ai pu vous dire ou ce que vous avez entendu.
Merci pour ces précisions.
Dans la liste des pays que vous avez énumérés, il me semble que vous en avez oublié un et qui est important, à savoir celui des trois religions, Israël. Et en fait, je crois quand même, enfin je saurai, j'espère, un peu plus dans quelques temps, parce que je vais y aller, c'est quand même aussi pas aussi démocrate qu'on le pense, et il y a un certain nombre de chrétiens qui ne peuvent pas tellement se développer là-bas. Et ceux qui existent, palestiniens en l'occurrence, sont quand même aussi, je ne sais pas si je dois dire martyrisés, mais enfin, subissent pas mal de difficultés dues justement à l'économie, et en particulier aussi avec l'habitat, et puis les colonisations qui se font au West Bank. Voilà. Si vous pouviez mettre ou donner quelques explications complémentaires.
Alors, tout à fait, j'aurais pu parler d'Israël. Mais d'abord, pour dire que dans la région, c'est le seul pays qui a une histoire démocratique. Donc on est un peu dans un autre contexte, qui n'empêche pas que vous avez raison. Je crois que les chrétiens arabes sont des citoyens de seconde zone. Simplement, leurs droits religieux sont respectés. Leurs droits culturels, c'est déjà un peu plus difficile. Et puis, sur le plan économique, il y a des inégalités. La difficulté, c'est évidemment la relation avec, j'ai dit chrétien arabe, mais j'aurais pu dire palestinien, c'est la même chose. Cette chose, c'est que là, on a franchi une frontière, je devrais même dire, on a sauté un mur qu'on ne peut pas sauter. Et là, c'est effectivement toute la difficulté, parce qu'en réalité, c'est un même peuple, c'est une même histoire, c'est les mêmes églises d'un côté comme de l'autre, et qui se trouvent engagés dans une histoire différente. Alors oui, il y a des discriminations, je crois que vous avez raison. En même temps, vous avez annoncé que c'était le pays des trois religions, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais effectivement, non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des lieux de vrai dialogue. En Israël. J'ai donné le cas de la Jordanie, mais il faut dire juste en face, on peut citer aussi en Israël, que ce soit dans le cadre de Kibbutz ou d'autres initiatives, où on trouve effectivement un dialogue auquel participent des juifs, des musulmans et des chrétiens. On trouve aussi une production cinématographique, je veux dire, le contexte démocratique permet une meilleure expression. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le meilleur des États et la meilleure des choses. Comparé à l'environnement, je crois, mais faites votre visite et puis on pourra essayer d'en reparler, vraiment traitons différemment la situation des Palestiniens où la minorité chrétienne est réduite, hein, à un strict minimum, y compris à Bethléem où les chrétiens étaient majoritaires. Jusque dans les années 70. J'ai pas dit non plus, j'ajoute juste une petite note rapidement, la question de l'émigration, n'est-ce pas, qui est probablement un des défis majeurs. J'en ai fait allusion, on peut dire, dans le cas du Liban, mais les Irakiens qui sont partis, ils se retrouvent, pour certains d'entre eux, se retrouvent en Syrie, alors comme cadeau, bon... Mais leur projet, c'est évidemment de rallier alors ou bien l'Australie, ou bien les États-Unis, ou l'Europe d'une manière générale. Et donc, un des défis majeurs pour les responsables religieux, c'est l'émigration. Certaines fois, elle est mue par une menace directe, mais bien souvent, parce que les conditions économiques sont difficiles. Et parce qu'on veut offrir à ses enfants une bonne éducation. Qui peut reprocher à des parents de vouloir donner à leur enfant une bonne éducation? J'ai un ami qui était plusieurs années, qui était pasteur à Téhéran, qui aujourd'hui est aux États-Unis. Eh bien, il avait deux filles et il ne pouvait pas trouver une éducation parce que c'était des filles et que filles chrétiennes, elles n'avaient pas les mêmes chances. Voilà, il a servi son église pendant des années et puis à un moment donné, un choix qui était difficile. Mais qui est aussi une réalité.
Merci.
Merci. Est-ce que les chrétiens de ces divers pays, vous avez évoqué un cas, je crois, si j'ai été assez attentif, mais se donnent-ils les moyens de se retrouver entre eux? Y a-t-il une solidarité entre les diverses dénominations chrétiennes? Les chrétiens de diverses dénominations, pour le dire comme ça. Comme c'était le cas à l'époque de l'apôtre Paul, où il y avait solidarité avec les chrétiens de Jérusalem, par les chrétiens de Grèce, etc.
C'est une vraie question de vous poser, parce que, comme je vous l'ai dit, ces chrétiens sont séparés, alors, soit par des barrières confessionnelles, soit par des barrières linguistiques. Hein, et quand on est chaldéen, on est catholique, mais on est attaché, parce que la liturgie, elle est en syriaque, parce que c'est son marqueur. Et on ne part pas sans autre à côté des Arméniens, dont la liturgie est en arménien. Et voilà. Donc, effectivement, l'œcuménisme au sens large est un vrai défi. Alors, on a des situations. Vous évoquez Paul comme un exemple. Hein, je vais donner un exemple. Il y a une petite église qu'on appelait nestorienne. Mais c'était une espèce de préjugé. Elle n'avait rien à voir. Oui, Nestorius a été chassé de Byzance. Et puis, il fallait se réfugier en dehors de l'Empire romain. Et donc, il s'est retrouvé en Perse. Et cette église d'Orient n'est pas acceptée par la grande majorité des églises chrétiennes du Proche-Orient. Elle fait partie du Conseil œcuménique, ici à Genève, mais pas du Conseil des églises du Moyen-Orient. Eh bien là, c'est l'église catholique qui est venue en aide à cette petite église. Donc elle a une partie chaldéenne, elle est catholique, mais il y a une autre partie qui est l'église d'Orient et qui est très minoritaire. Et l'église catholique est venue en aide pour former ses cadres, lui permettre simplement de survivre. Donc je vais trouver des cas d'entraide, mais c'est vrai que c'est un défi. Le christianisme du Moyen-Orient est un christianisme éclaté. Alors, je donnerai un autre exemple. L'église dans laquelle j'ai travaillé, qui est l'église évangélique d'Iran, elle comporte des chrétiens arméniens, des chrétiens de tradition syriaque et des convertis. Convertis du judaïsme, du zoroastrisme, mais aussi de l'islam. Eh bien là, il y a au fond une solidarité jusqu'à un certain point, parce que les Arméniens, j'allais dire, ont la vie sauve. Enfin, oui, ils sont reconnus. Les chrétiens de tradition syriaque aussi, mais les autres sont exposés et menacés en toutes circonstances, ou presque. Eh bien, cette église, de manière délibérée, met toujours un secrétaire général ou arménien ou de tradition syriaque vis-à-vis du pouvoir en place, et qui prend un risque, alors que son appartenance culturelle ne l'exigerait pas. Et c'est ainsi que cette église a pu subsister jusqu'à aujourd'hui. Inversement, l'église anglicane, toujours en Iran, qui était constituée exclusivement de convertis, aujourd'hui est pratiquement disparue. Il y a encore un prêtre qui est un prêtre pakistanais. La dernière fois que je suis allé, c'était au mois de mai, et c'est une église pratiquement fermée. Vous voyez que j'enjolive pas toujours la situation, madame.
Je peux me permettre de mentionner les Coptes en Égypte. C'est aussi un très bon exemple, parce que il y a donc différentes, dans cette communauté, il y a différentes tendances, hein, des catholiques, protestants, évangéliques, toutes sortes de mouvements évangéliques, et ils étaient passablement divisés, enfin, en tout cas, pas tellement de liens, et là, dans le feu de la discrimination, ils se retrouvent, et il y a eu dernièrement, au mois d'octobre, il y a eu un rassemblement de 45 000 personnes, donc coptes, qui ont loué le Seigneur, qui ont proclamé le nom de Jésus ensemble. Voilà, c'est un exemple aussi. Est-ce que ça va s'orienter vers un vrai réveil dans cette communauté de coptes qui rassemble à peu près 11 millions de personnes? Peut-être. On peut prier le Seigneur pour cela.
Tout à fait. Je crois que vous donnez un bel exemple. Alors, c'est vrai que être ensemble est un vrai défi, parce que on est copte, ok, mais en même temps on est catholique, protestant ou orientaux, enfin orthodoxe, oui, copte orthodoxe au sens de orientaux. Et donc, suivant la casquette que je mets, ben on est ensemble, côte à côte, ou bien on est en compétition. Mais merci de votre exemple. Et j'ai mentionné que la communauté copte, je ne sais pas, 11 millions, ça me paraît beaucoup, mais personne ne les a comptés, donc voilà. Mais en tout cas, si, disons, on ne va pas descendre en dessous de 7 millions, ce qui, pour le Proche-Orient, est de loin la communauté la plus importante.
quel est leur statut social en général dans, probablement c'est différent dans le pays ou comme ça, mais par exemple en Irak, Iran, des pays comme ça, quel est donc le statut social de, leur, de ces personnes? Est-ce qu'ils ont un peu une possibilité d'atteindre un niveau, comme on dit, plus haut?
Alors, là, il faut, pour répondre à votre question, il faut faire intervenir un autre facteur qui est celui du temps. Ça dépend à quel moment. Alors, globalement, les minorités chrétiennes, je dirais, c'est plutôt classe moyenne. Hein? Alors, vous avez des commerçants, vous avez des professions libérales, vous avez et puis des gens qui sont fonctionnaires, qui dans les enseignants, etc. Maintenant, il y a des périodes où effectivement, les chrétiens ont joué un rôle important. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le premier mouvement d'affirmation, de réveil un peu de l'islam arabe, c'est la Nahda. Et la Nahda, qui donc remonte hein, au siècle dernier, a été animée bien souvent par des chrétiens. Ils ont joué un rôle moteur dans... Alors, c'est vrai, ce qui est devenu le parti de Saddam Hussein, mais qui a été utilisé politiquement. Mais ce réveil, cette réaffirmation de la valeur de la culture arabe, eh bien, les chrétiens y ont été engagés. Donc, à des postes importants, y compris sur le plan politique. Alors, dans notre cas, j'ai mentionné le nom de Georges Habash. Alors, on n'est pas spécialement fier parce qu'il est responsable d'attentats, etc. Mais voilà quelqu'un qui s'engage à fond, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'extrémisme, c'est aussi vrai pour lui, dans la cause nationaliste. Et qui ne fait pas problème à cette époque-là. Il a sa place, il n'est pas connu sous un nom de... qu'on aurait trafiqué en islam. Non, c'est Georges Habash. Et Georges Habash, tout le monde sait que c'est un chrétien comme Boutros Ghali. Là où il y a une limite, c'est devenir chef d'État. Hein. Ça, c'est de trop demander. Donc, explicitement, dans plusieurs constitutions, le chrétien... Enfin, il faut être musulman pour pouvoir accéder au poste de... président.
L'enjeu de la question pour nous, c'est, me semble que c'est comment être chrétien et comment être témoin de Jésus-Christ au niveau de toutes ces populations, aussi bien en France, quoi. C'est le débat ce soir, c'est comment témoigner de Jésus-Christ auprès de ces populations en France, et puis au niveau politiquement, comment se positionner par rapport à tout ça, en fait. Le débat qui nous concerne pour nous.
Alors, tout à fait, je pense que c'est... Alors, ce soir, je voulais aussi parler des minorités au Proche-Orient. Je pense qu'on a aussi une responsabilité, une solidarité vis-à-vis de ce qui se passe au Proche-Orient, parce que ça influe les rapports que nous pourrons avoir ici avec les musulmans. Maintenant, la question que vous posez, elle est essentielle, et peut-être rejoint certains éléments que je donnais dans ma conclusion, à savoir ne pas figer l'islam dans un système de pensée, mais avoir une rencontre directe. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que une rencontre personnelle et directe, sans arrière-pensée. Et puis, à un moment ou un autre, vous aurez automatiquement le musulman qui vous appelle à rejoindre l'islam. Et pour moi, c'est le moment idéal, je veux dire, c'est l'invitation à témoigner de notre conviction, en respectant l'autre. Disant, tu m'appelles à rejoindre l'islam, mais moi, je veux te dire que pour moi, c'est Jésus-Christ qui est le modèle et le Seigneur. Donc éviter, je dirais, une forme de prosélytisme, alors on ne peut pas dire agressif, mais il peut l'être parfois, mais être vraiment à l'écoute de l'autre, tel qu'il est, comme un être humain, nous nous rencontrons, pour moi, au niveau de notre humanité commune. Et avec les musulmans, c'est très simple, pour tous ceux qui ont un peu une conviction, pour qui ce n'est pas juste un nom, une culture, un héritage, eh bien la question de l'appel à rejoindre l'islam va surgir. Et là, soyons nous-mêmes. Encore une fois, dès lors qu'on a fait tomber nos préjugés, parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas innocent que l'islam ait résisté aux missions. Ce n'est pas innocent qu'il y ait eu de la colonisation. Alors, bien sûr que pour nous, l'histoire va plus vite. Peut-être qu'au Proche-Orient, on a l'impression, quand on est au Proche-Orient, moi, ça m'a frappé plusieurs fois, on a l'impression que les croisades, ça a eu lieu il y a 3 semaines, quoi, je veux dire. Non, j'exagère à peine. Mais c'est vraiment une réalité qui est encore là. Et puis quand les Français sont venus, ben, c'était la suite des croisades d'ailleurs. Hein? ils ont fait un État chrétien, etc. Bon, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de cet aspect-là pour pouvoir rencontrer l'autre en ayant un peu écarté ce qui fait obstacle. Parce que si d'entrée de jeu, j'arrive avec mon témoignage, le plus souvent, il va être filtré et rejeté par cette histoire qui est quand même largement une histoire conflictuelle. Oui, alors absolument. Absolument, je veux dire, l'axe du mal, c'était déjà une... Enfin, je ne vais pas aller plus loin dans cette direction, mais je veux dire, d'avoir stigmatisé trois pays sans se rendre compte qu'est-ce que ça voulait dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes iranien? Quand vous regardez les films américains, vous aspirez, vous avez une parabole pour pouvoir le soir vite la sortir et regarder quoi? Mais pas le programme de la télévision iranienne, évidemment. Je veux dire, il y a eu vraiment un aveuglement. Alors, c'était peut-être utile à usage interne des États-Unis, mais le mal que ça a fait, c'est évident. Et cette idée du choc des civilisations, qui est une simplification, une caricature, bien sûr qu'il y a des éléments conflictuels, mais ils sont infiniment plus complexes et transversaux. Alors que là, on voudrait nous dire qu'il y a un bloc. Il y a un bloc. Alors, en Afrique, on n'est pas sûr si ça fait un bloc ou pas, mais on décide qu'il y a un bloc Occident. Mais on met ensemble des choses tellement différentes. Hein, et puis un bloc asiatique. Je ne vais pas développer là. Mais on ne se rend pas compte que... Mais oui, mais c'est aussi des choses qui sont bues par l'autre en face. Hein, quand je vous ai dit Bush et Ben Laden, on ne sait pas bonnet blanc, blanc bonnet, mais l'un appelle l'autre. Et on est piégés, nous. On ne se rend pas compte que lorsqu'on rencontre un musulman ou une musulmane, il y a tout un truc derrière, et pas si loin derrière, qui vient avec nous. Et donc, il faut faire ce travail, je l'ai dit, d'apprendre à connaître, bien sûr, l'autre, mais aussi notre propre histoire. Le christianisme pur, je continue à le chercher, sinon dans l'Évangile, mais tel qu'il a été vécu à travers les siècles, il faut qu'on exerce notre regard critique.
Quelle est la différence quand Bush dit que Dieu va nous aider à conquérir ou à battre, et à Saddam ou dit Dieu, Allah va nous aider? C'est pris vraiment la foi, moi je dis non seulement la religion, mais la foi en otage.
Je crois que j'ai rien ajouté. C'est clair qu'il y a une manipulation du religieux par les politiques. Et c'est notre tâche comme communauté chrétienne d'être critique.
Lorsque Morsi a été élu président, tout le monde disait que c'était un homme très modéré, très bien, vraiment, et tout ça. Même musulman, c'était le dieu en personne. Or, quand j'ai vu sa tête, je me dis, mais je connais cette tête quelque part. J'ai regardé sur mon ordinateur, effectivement, 8 jours auparavant, il est venu, avant d'être élu président, donc, il est lu sur dans une vidéo, et il était complètement dans tous les états. Nous voulons Jérusalem comme capitale, nous voulons. Non, mais si, mais c'est pas vrai. Oui, c'est marqué Morsi. Alors, j'étais très étonnée. Comment est-ce qu'on peut appeler quelqu'un comme ça, modéré, agneau, quoi, genre, hein? Et parce que vous avez dit qu'il y avait 4.
3 vice-présidents.
Oui, vice-président, 3. Oui. Mais c'est lui qui tient les rênes, ou bien c'est qui c'est qui dirige finalement? Parce que moi, j'étais vraiment scandalisé quand j'ai vu ça.
Alors, qui c'est qui dirige vraiment? Je crois que beaucoup d'Égyptiens voudraient pouvoir répondre à cette question. L'Égypte est un tournant. Et je vous ai parlé de la surenchère entre les salafistes et puis les frères musulmans, des difficultés, des clashs et des morts. Ça, c'est, je pourrais vous parler à Minya ou d'autres. Où il y a des incidents graves, où la police intervient, mais souvent un peu tardivement. On voudrait qu'elle soit plus rapide. Donc, il y a la discrimination demeure. Sur Morsi, ce que vous me dites là, sur cette vidéo, j'y crois pas. Je crois que quand on regarde les vidéos, sachant qu'il y a un certain nombre de créations pures et simples, hein, je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Internet, c'est un outil merveilleux. Il faut l'utiliser, j'encourage, mais de manière critique. Je veux dire par là que circule un certain nombre de représentants. Vous dites c'est vrai puisque je le vois. Oui, mais enfin, on sait tout ce qu'on peut créer avec des vidéos. Alors, Morsi, dans cet état d'esprit, j'ai de la peine à faire le lien avec ce que je sais par ailleurs. Je ne suis pas un défenseur de Morsi. J'ai simplement donné les faits. Il se trouve que je connais bien un des vice-présidents. Alors, le vice-président chrétien, Samir Marcos. Quand on s'appelle Samir Marcos, on est catalogué chrétien et est gouverneur pour la région du Caire et se retrouve vice-président. Alors, vous allez me dire, ben, est-ce que c'est comme ça, de façade? C'est la suite qui va le dire. Ce qui est intéressant, c'est que le salafiste, lui, a protesté. Non pas parce qu'il y avait un chrétien, mais parce qu'il y avait une femme. C'est sérieux. Les salafistes, il a fallu convaincre, de dire c'est comme ça et pas autrement. Et oui, il y a une parole aussi pour les salafistes, ils sont aussi représentés, mais la condition, c'était pas qu'il n'y ait pas de chrétien, mais pas qu'il y ait une femme au titre de vice-présidente de la République. Des fois que les trois autres meurent, eh bien, c'est elle qui devient au pouvoir. Mais l'avertissement, vous savez, moi j'ai vu des choses sur Internet. On a tous entendu parler de Boko Haram et a circulé une horrible image où on avait toute une série de cadavres de brûlés. C'était annoncé comme étant un nouveau massacre de Boko Haram, donc au Nigeria. Alors que c'était un incendie qui avait eu lieu sur un camion-citerne au Congo. Donc ça n'avait aucun rapport avec ni le Nigeria et autres. Mais ça a été mis en scène et ça a circulé. Ça ne veut pas dire que Boko Haram pour autant est innocent. Mais je veux dire, on a chargé le baudet sur quelque chose tout à fait sans fondement historique aucun.
Oui, moi j'avais une question. Tout d'abord, vous remercier aussi en particulier pour la conclusion et l'appel à reconnaître la légitimité de l'autre. La question était la suivante, autour de la critique, mais aussi de l'autocritique. Vous avez peu parlé de la situation en Europe avec les provocations, par exemple Charlie Hebdo, ou pour parler en Suisse, des promotions politiques avec des affiches de l'UDC. Je crois savoir, j'ai lu cela dernièrement, que le réseau évangélique avait pris position. Alors, avoir un avis critique, un avis autocritique aussi. Les chrétiens sont-ils parfois appelés à prendre position et publiquement?
Oui, bien sûr, je réponds oui. C'est dans la mesure où on arrive à avoir une position commune. Si je prends l'exemple des évangéliques, on a eu donc ce fameux vote contre les minarets en Suisse, dont tout le monde a entendu parler. Eh bien, c'est intéressant sur ce point-là. Il y avait un mouvement évangélique qui était à fond pour l'interdiction, mais la fédération évangélique n'a pas pu se décider parce qu'elle était partagée. Alors, je crois qu'il faut aussi accepter que parfois, comme chrétien, eh bien, on a une lecture politique différente. Oui, moi, je souhaite qu'on arrive à des positions communes, notamment lorsqu'il s'agit de dénoncer. C'est souvent plus facile de dénoncer quelque chose, et en particulier la question de la justice. Je crois qu'elle dépasse nos clivages confessionnels, d'église, et que nous pouvons arriver à une parole commune. C'est plus difficile, peut-être, lorsqu'on a un esprit trop critique, lorsqu'il s'agit d'affirmer positivement quelque chose. Moi, je rêve d'un œcuménisme qui va jusque-là. Hein. Pas seulement dénoncer l'injustice, mais il faut le faire. Hein. Ce n'est pas toujours simple, mais aussi positivement affirmer des valeurs auxquelles on tient communément.
Merci. Il est 22 heures passées. Peut-être une dernière question.
Vous semblez bien connaître l'islam. Pouvez-vous nous donner un peu les différences entre les chiites et les sunnites? Et il y a des endroits, par exemple en Afrique de l'Ouest, où il semble que ces différences-là n'existent pas. Est-ce qu'il y a un autre type d'islam qui est plus tolérant ou plus différent?
J'ai combien de temps pour répondre? Non, rapidement, parce que vous nous engagez là sur une autre piste. Alors effectivement, la question, c'est qui doit succéder au prophète Mohammed. Là, il y a une opinion différente. C'est au fond par élection ou par désignation, c'est un leader politique, c'est ce qu'on appelle le calife. Et ça, c'est la position des sunnites. Et la position chiite est dire non, c'est quelqu'un qui est désigné par Dieu Et donc, c'est Ali qui doit succéder à Mohammed. Effectivement, Ali a succédé à Mohammed, mais comme quatrième calife. Et puis après, les chiites, ils ne vont plus avoir accès au pouvoir, sinon de manière sporadique. Donc, si vous me parlez de l'Afrique, les chiites ne sont pratiquement pas présents. Mais l'islam africain traditionnel, au fond, est né d'une rencontre entre la culture africaine et l'islam. Aujourd'hui, il est remis en cause, précisément par ceux qui vont aux sources, qui vont étudier en Arabie Saoudite ou en Égypte ou ailleurs, à Lazare, et qui reviennent en disant « oui, mais là, c'est des compromissions, c'est pas l'islam authentique ». Donc il y a un mouvement interne actuellement dans l'islam africain qui est assez fort entre les anciens, qui peut-être ne maîtrisent pas toujours bien l'arabe, mais qui ont cette sagesse, qui ont cette histoire commune, imprégné de la tradition africaine, et puis les jeunes qui veulent redresser l'islam, et souvent aux couleurs islamistes. Donc je crois qu'il faut qu'on en ait conscience. Il y a un clivage sunnite-chiite, mais à l'intérieur du sunnisme, comme d'ailleurs à l'intérieur du chiisme, il y a d'autres clivages sur le plan politique. Il y a aussi un islam spirituel, hein, l'islam soufi. On en trouve chez les chiites et on en trouve chez les sunnites. Donc on n'est pas moins sunnite ou moins chiite, mais on va mettre l'accent sur toute une méditation, le souci au fond de se rapprocher de Dieu, on pourrait dire de la mystique ou de la spiritualité, non pas simplement se contenter de la loi quand je lis le Coran, mais chercher la dimension intérieure, la dimension spirituelle, ce à quoi le prophète fait référence et pas uniquement l'application juridique d'une prescription. Donc voilà, l'islam est multifacette. Et vous le rencontrerez quand vous rencontrez une personne. Alors, raison de plus pour ne pas immédiatement la cataloguer. Il est sunnite donc. Non, il est sunnite, mais peut-être qu'il a des familiarités soufies ou qu'il est imprégné de culture locale. Le pays, là, je finis juste là-dessus, mais le pays musulman, premier numériquement, c'est l'Indonésie. Ben, l'Indonésie ne se donne pas comme un pays islamique. L'Indonésie, il y a cinq principes. Alors, ce n'est pas toujours facile pour la minorité chrétienne. Il y a des endroits, dans certaines villes, ils sont majoritaires. Dans d'autres, ils sont en proie à certains courants extrémistes. Mais voilà, un exemple d'un islam indonésien qui n'éprouve pas le besoin de mettre en tête ni la charia, même si la charia est valable pour les musulmans. Il y a des zones où on implique la charia et on va fouetter les gens qui sont adultères ou autres. Et néanmoins, le pays ne se définit pas comme sous la loi islamique.
Non. C'est fini ? Ben, merci pour la présentation. Et puis, j'ai relevé quelque chose que j'ignorais complètement, à savoir le Liban et la date du 25 mars qui existe depuis 2010. Est-ce qu'on ne pourrait pas entrevoir quelque chose avec les diverses fédérations des églises européennes et autres pour essayer d'instaurer un système similaire.
En tout cas, il y a une... Pardon.
Oui, pardon. Et par ailleurs, bon, on parle souvent des chrétiens de Syrie et autres. Il y a une approche de Noël. Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors pour ce qui est du 25 mars, il y a en tout cas une piste qui est là, qui est ouverte par des chrétiens et des musulmans du Liban. Rien ne nous empêche de réfléchir là-dessus, même si pour les protestants, l'annonciation n'est pas une fête majeure, mais je crois qu'elle a un petit enracinement évangélique. Et ça mériterait en tout cas, il y a des parentés, il y a des passerelles et qu'on n'exploite pas suffisamment. Alors pour l'autre question, ben évidemment, on vit ce drame, et je ne sais pas. Oui, le pasteur Bchara. C'est une possibilité, bien sûr. On peut apporter un soutien, ça peut être un message. On a aussi dans nos églises ici, à Genève, on a eu un dimanche où on a repris des prières qui nous ont été envoyées par ces chrétiens qui sont... dans des conditions épouvantables. Mais effectivement, on peut aussi imaginer un acte concret de solidarité avec le nombre. Alors, on parle toujours des émigrés, des réfugiés, mais il y a tous les déplacés. Il y a tous les gens qui peuvent simplement parvenir chez eux parce que soit c'est la guerre, c'est un clan ou l'autre, ou bien ça a été détruit. Je veux dire, il faut s'imaginer le contexte de guerre civile qui laisse personne à l'abri.
Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, M. Basset, pour cet exposé, pour toutes ces réponses aux nombreuses questions qui montrent aussi que c'est un thème qui nous intéresse, qui nous préoccupe, et nous voulons continuer à cheminer et à essayer aussi de dialoguer avec ceux qui nous entourent et qui sont musulmans. Merci beaucoup.